ready?
Kiwi, kiwi, passez le long.
Le blues du crocodile.
Oh, 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 oh.
Bonsoir et bienvenue, ici Claude Michel en compagnie d'Hélène Scott sur Radio Roquette, la radio super chouette, en direct du Jardin de la Main pour une émission bestiale. Le blues du crocodile, épisode 33, c'est parti. Quel plaisir d'être ici en votre compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'animaux de film. Bonjour Hélène.
Bonjour Claude Michel, merci de m'accueillir dans ton émission. Bonjour auditeurice du Jardin de la Main et bonjour Serge Bontemps, bon anniversaire.
Un public presque en folie, on est installé dans des espèces de fauteuils de brocante, il y a un tapis sous mes pieds au motif un peu incongru, voire psychédélique. Quelques enfants qui traînent dans les coins, des plantes qui poussent dans tous les sens. Des gens qui ont l'air plutôt contents d'être là, le cadre est plutôt idyllique. Il fait chaud, presque trop chaud aujourd'hui pour nos petits corps d'humains à 37 degrés qui chauffent déjà assez. Une température par contre plutôt idéale pour ce qui est des crocodiles. On célèbre ce soir les 10 ans de Radio Roquette, une longévité remarquable, digne des plus grands reptiles justement. On remercie toute l'équipe technique, Serge Bontemps, notre cher directeur, Alyosha, planche à roulettes, notre éternel stagiaire, et puis les gens du Jardin de la Main pour l'accueil. Et on va commencer en musique avec un titre extrait de la BO du film Inside Llewyn Davis, qui raconte l'histoire d'un chanteur de folk new-yorkais raté qui a perdu son compagnon de route et qui galère à gagner sa vie, et qui se retrouve soudain avec un chat roux sur les bras.
Need no carpet on my floor. You come along and follow me. We'll go down to Galilee. Out in green, green, rocky road. You're promenading green. Tell me who you love. Tell me who you love. See that crow up in the sky, it don't walk, but he just fly. It don't walk, but he don't run. Keep on flapping to the sun. Howling green, green, rocky road. You're promenading green. Tell me who you love. Tell me who. Does your mama chew tobacco if your mama chews tobacco? Hookah-dookah, hookah-dookah, soda cracker. Howling green, green, rocky road. You're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Now when I go back to Baltimore, no carpet on my floor. You come along and follow me. There's a man in Galilee. Howling green, green, rocky road. promenade in green. Tell me who you love, tell me who you love.
Classique de la folk états-unienne interprété par Oscar Isaac, acteur principal du film réalisé par Joel et Ethan Cohen en 2013. À mon sens, un genre de biopic alternatif de Bob Dylan, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi. Surtout Claude Michel qui a dit que c'était un chanteur raté, ce qui n'est pas le cas de Bob Dylan, je crois. Afin de coller à la thématique, on a bossé avec Claude Michel. Tous les morceaux que vous allez entendre ce soir sont tirés d'un film qui contient des animaux.
Et justement, on avait commencé à faire une liste de films avec des animaux, mais on s'est assez vite rendu compte qu'en fait, la liste était infinie, tellement les animaux sont présents dans les films et au cinéma. Et en grossissant un peu le trait, on pourrait même dire que l'animal est à l'origine de l'invention du cinéma, puisque c'est en cherchant à décomposer le galop du cheval, dont le mouvement des pattes est trop rapide pour l'œil nu, qu'Edward Muybridge invente à la fin du 19e siècle le fusil photographique. Le fusil photographique, c'est une sorte de prototype de caméra capable de prendre plusieurs photos par seconde et qui va braquer comme ça sur un canasson en pleine course pour découvrir qu'il y a bien un moment où aucun sabot touche terre et que le cheval semble voler plus qu'il ne court. Et c'est d'ailleurs cet épisode qui sert de trame narrative, de point de départ du film Nope, qui est sorti en 2022 de Jordan Peele, un film qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et puis c'est assez intéressant puisque ça raconte justement ce point de bascule finalement où, là encore je grossis le trait, mais on, avec ce fusil photographique quelque part on passe un peu du statut de chasseur-cueilleur à celui de chasseur d'images. Et c'est presque un raccourci comme ça, aussi radical que ce plan dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où on passe de la préhistoire au futur. Mais voilà. Donc, il y a plein de films d'animaux, vous en connaissez plein. Sauver Willy, Babe, la mouche, l'ours, Beethoven, Amour, chienne, Princesse Mononoke, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Nemo, le roi lion. Pourquoi autant d'animaux sur les plateaux de cinéma ? Que cherche l'humain dans l'animal ? Qu'est-ce qui lui manque ? Quelle image aussi l'animal nous renvoie par son regard ? On va essayer de répondre à toutes ces questions tout au long de l'émission. Et c'est l'heure de la chronique d'Ellen Scott. Alors que les primates de métal ont envahi la ville de Neuchâtel, il y a un très grand singe qui reste indétrônable dans l'histoire du cinéma. C'est King Kong, encore plus fort que les dinosaures, parce que oui, il y a des dinosaures dans King Kong. Et c'est ce que va nous raconter Hélène. Petit jingle pour l'occasion.
Pensez-vous que l'hiver sert à rouge ?
Oui, King Kong, on parle bien du film de 1933, quel début, je vais y arriver. Et pas du Gloobie-Boulga de synthèse de Peter Jackson de 2005 ou du Jonas Skull Island de 2017. Je vous entends déjà me dire, auditeuriste, que c'est pas hyper original et que ça parle même pas de crocodile, mais c'est originel et j'aimerais bien vous en dire quelques mots pour parler cinéma, mais aussi pour entrer dans notre sujet animalier. Alors, ouvrez vos paquets de pop-corn imaginaire et c'est parti.
Why, the whole world will pay to see this.
No chains will ever hold that.
We'll give him more than chains. He has always been king of his world, but we'll teach him fear. We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months, it'll be up in lights on Broadway. Kong, the eighth wonder of the world!
L'histoire commence avec un groupe d'humains qui s'embarquent pour une île perdue, mystérieuse, pour tourner un film. Dans l'équipe, il y a notamment Carl Denham, un réalisateur très, très enthousiaste.
Listen, I'm going out and make the greatest picture in the world, something that nobody's ever seen or heard of.
Très très enthousiaste. Jake Driscoll, marin masculin assez fade quoique courageux, et Anne Darrow, actrice à la beauté diaphane.
What are you doing up here?
I just wanted to see.
Oh, you just wanted to see. Well, I'm sorry. Make that line fast. You're that girl Denham picked up last night, aren't you?
Yes. I think this is awfully exciting. I've never been on a ship before.
Well, I've never been on one with a woman before.
I guess you don't think much of women on ships, do you?
No, they're a nuisance.
Well, I'll try not to be.
You've been on the way already.
Le groupe accoste sur l'île, habité par une société d'humains dont le scénario se fiche éperdument et font face à un gorille de 8 mètres de haut. Enfin, ça dépend des scènes. Il fait la loi et fout des tatanas, des tyrannosaures, des serpents géants et autres créatures improbables venues du fond des âges. C'est ça, King Kong, un très très gros singe qui se bat contre des dinosaures. Et c'est déjà super cool. Mais c'est aussi l'histoire de l'amour impossible d'un être titanesque, destructeur et ultra-violent. Pas le marin, hein, King Kong. Faut pas confondre, pour une femme démunie et quasi littéralement nue dans cette jungle de Skull Island. Une sorte de puissant dieu en proie soudain à un ennemi qu'il n'avait pas vu venir, le désir. Bien, maintenant on prend ces idées, on les mélange, on touille un peu tout, on ajoute une trame narrative et une montée en tension. Alors, Anne est enlevée par cette société d'humains et de l'île et offerte à King Kong qui l'emmène dans la jungle. L'équipe de Carl le Réal et Jack le Marin part à sa recherche. Kong s'enfuit toujours dans la jungle avec Anne dans sa grosse patte, stégosaure, fuite, dino nageur, fuite, dino grimpeur, fuite, Kong tyrannosaure, bagarre, dino serpent, rebagarre, ptérodactyle, rebagarre. Jack arrive à retrouver Anne et la ramener. Kong revient vers le bord de l'île pour la rechercher, bagarre, bagarre, bagarre. On arrive à assommer King Kong avec des bombes à gaz. Je sais pas ce que c'est. Et on décide de le ramener à New York pour le présenter à la populace et se faire un max de fric. Une fois sur scène et devant un public médusé, Kong brise ses chaînes, s'échappe, il bousille un métro aérien, une salle de spectacle, quelques voitures, lance des gens depuis des immeubles après les avoir mâchouillés un peu, prend Anne à nouveau dans sa grosse patte pour l'emmener sur l'Empire State Building et se fait descendre par des avions en esquissant un dernier geste tendre vers l'actrice dans une apothéose finale à vous en faire lâcher vos pop-corns imaginaires.
Well, Denim. The airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Beauty killed the beast.
Et voilà, c'est fini pour King Kong. Merci à tous. Non, ici, je fais une petite aparté. Je me suis dit en préparant ma chronique que King Kong, on peut aussi le voir comme un homme-singe, un grand homme-singe qui a simplement envie de renifler la petite culotte d'Anne Darrow, plutôt qu'un véritable gorille. Mais on veut parler d'animaux dans cette émission. Je vais donc laisser de côté la grille de lecture de la relation type Belle et la Bête avec son côté érotico-romantique, pour rester sur l'idée que Kong, c'est bien un très très gros singe qui se bat contre des dinosaures. Et puis c'est vachement plus cool. Donc je reprends avec le contexte. King Kong débarque sur les écrans de cinéma états-uniens en 1933. Les États-Unis sont alors en pleine dépression après le krach de 29. Le chômage est grimpé à 24%, imaginez. Les banques ferment, des milliers de gens sont ruinés et sautent par les fenêtres des buildings. Bref, le moral du pays est au fond du bac. C'est là qu'Hollywood balance Kong, ce qui prouve deux choses. 1. Le cinéma peut servir à fuir le réel. Et 2. Les producteurs de l'époque avaient visiblement compris qu'un singe de 10 mètres de haut, enfin ça dépend des scènes, hein, ça attirait davantage des foules qu'un documentaire sur la fiscalité. Le film est réalisé par Marianne C. Cooper et Ernest B. Schotzack sur une idée de Cooper. Et ça, notez-le bien, c'est important pour notre propos plus tard. King Kong n'est pas adapté d'un roman, d'une mythologie connue ou d'un vieux conte européen qu'on recycle pour la 15e fois. Non, c'est une créature née directement de l'image, une idée fabriquée par des cinéastes pour du cinéma. On peut apercevoir les deux réalisateurs à la fin du film dans l'un des avions qui abattent Kong. Et c'est quand même une idée hyper bizarre. Les créateurs viennent personnellement dans le film flinguer leur propre créature. C'est un petit peu comme si Spielberg, à la fin d'E.T., apparaissait de derrière un sapin avec un fusil de chasse. On trouve un type nommé Max Steiner à la musique, le gars qui fera plus tard les bandes originales de Casablanca ou Autant en emporte le vent, excusez du peu. Et c'est une étape historique, car c'est l'une des premières fois qu'une musique originale est composée spécifiquement pour accompagner un film de cette manière. Aujourd'hui, ça paraît normal. Même une pub pour des yaourts a un thème à la Zimmer. Mais à l'époque, le cinéma parlant est encore tout neuf. Il date de la fin des années 20 et la plupart des morceaux qui accompagnent l'image sont des pièces de musique classique. En Europe, plein de salles ne sont même pas encore équipées. Une partie du public verra donc King Kong sans le son, en tout cas sans son, ce qui est un peu comme regarder les dents de la mer sans le bruit des vagues. Vous entendez ça? Mais c'est super! La musique s'arrête pour qu'on entende bien un type se faire manger par un dinosaure! Du génie! Enfin, il y a les effets spéciaux de Willis O'Brien, j'espère que je prononce bien et sinon tant pis, et là on touche au sublime, on est seulement en 33 et pourtant le film déborde d'inventivité visuelle. On dirait un rêve fiévreux entre les gravures de Gustave Doré, c'est le gars qui a illustré l'enfer de Dante par exemple, et les illusions de Méliès. C'est giga beau, rien que pour ça je vous conseille de le voir. Les décors sont construits en profondeur, par couches successives, comme des décors de théâtre. Ça donne au film une texture hyper étrange, presque palpable mais en même temps onirique. Et surtout, Kong et les dinosaures, c'est des marionnettes animées image par image de la stop motion, avec des surimpressions, de la rétroprojection, des trucages optiques bricolés à la main, des techniques totalement révolutionnaires pour l'époque. O'Brien pose ici les bases des effets spéciaux modernes. Alors oui, aujourd'hui on a la CGI et des ordinateurs capables de calculer chaque mouvement de chaque poil du Kong de 2017, mais il y a un plaisir tellement enfantin à voir King Kong mettre une droite de catcheur à un tyrannosaure en stop motion. Parce qu'on sent encore les mains des artisans derrière chaque image. Et quelque part, c'est aussi ça la magie du film. Il n'a pas besoin de chercher à nous faire croire que c'est vraiment vrai. Il peut nous émerveiller assez fort pour qu'on suspende un moment notre incrédulité blasée d'adulte.
I can't sit so near the screen. It hurts my eyes.
This is not a moving picture, madam.
Dès sa sortie, King Kong cartonne. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui l'effet que ça devait faire en 33 de voir un stégosaure vous foncer dessus sur grand écran tel un train en gare de la Ciotat avec des dents. Le film se fait découper plusieurs fois par la censure d'ailleurs, déjà dans les années 30, notamment une scène de déshabillage d'Anne par Kong, puis plus tard dans les années 50. Avec l'arrivée de la télévision, on le retaille plus sévèrement pour qu'il puisse entrer tranquillement dans les salons états-uniens entre une pub pour des céréales et une autre qui vante les mérites d'un aspirateur. King Kong devient donc au fil du temps moins brutal, moins suggestif, plus acceptable et finalement culte. La version complète que vous pouvez voir aujourd'hui n'est véritablement sortie qu'en 75. Donc King Kong, ce n'est bien évidemment pas seulement un très très gros singe qui se bat contre des dinosaures. Sinon Godzilla, ce serait juste un lézard avec des problèmes de gestion de la colère. Non, King Kong, l'un des vrais sujets du film, c'est le regard. Tout le film parle de ça. Regarder, découvrir, capturer, montrer. C'est pas un hasard si le personnage principal, Carl Denham, est réalisateur. Carl le réal ne veut pas juste explorer une île mystérieuse, il veut ramener des images. Le truc qu'absolument personne n'a vu. Au début, ça ressemble à de la curiosité sincère, de l'enthousiasme naïf, puis progressivement, il bascule. « Waouh, ça existe, alors ça m'appartient, ramenons-le à New York pour se faire du blé !» Et le film montre constamment des gens qui regardent. L'équipe regarde la jungle, Carl le réal regarde Kong, le public new-yorkais regarde Kong enchaîné comme une attraction de foire, et nous, spectateuristes, on regarde tout ça tranquillou en grignotant nos pop-corns imaginaires. Et puis il y a toujours quelqu'un en train d'observer quelque chose. C'est pas... Ah, pardon. Et si il y a toujours quelqu'un en train d'observer quelque chose, c'est parce que je crois que le film parle du cinéma lui-même. Le cinéma capture le réel, puis le transforme en spectacle. On découpe, on met en scène, on dramatise. On transforme un être vivant en attraction géante. King Kong cesse progressivement d'être un animal et il devient une image. L'image d'un singe sur un building. Et c'est pour ça qu'il est fascinant dans le film, qu'il est fascinant ce film. La logique du spectacle est partout, à tous les échelons. L'île doit émerveiller, les dinosaures doivent impressionner, Kong doit terrifier, New York doit applaudir. Le film en lui-même fonctionne comme Carl le Réal. Regardez ce truc incroyable qu'on a trouvé, des décors de malade, des nouveaux effets spéciaux de ouf, de la musique, du grand spectacle.
Camera, look up slowly, Anne. That's it. You don't see anything. Now look higher. Still higher. Now you see it. You're amazed. You can't believe it. Your eyes open wider. It's horrible, Anne, but you can't look away.
There's no chance for you, Anne. No escape. You're helpless, Anne. Helpless. There's just one chance. If you can scream. But your throat's paralyzed. Try to scream, Anne. Try. Perhaps if you didn't see it, you could scream. Throw your arms across your eyes and scream, Anne. Scream for your life!
Évidemment, derrière cette fascination, ce regard qui capture le réel, il y a une violence énorme. Parce que les humains ne savent pas juste découvrir quelque chose, ils doivent aussi le posséder. L'inconnu devient immédiatement un truc à filmer, à étudier, à exploiter, à montrer aux autres. Découvrir devient une forme de propriété intellectuelle sauvage, et on peut penser que le film est presque ironique là-dessus. Parce qu'au début, Kong est présenté comme le monstre. Il est gigantesque, il rugit, il écrase des dinosaures à main nue. Alors forcément, danger. Sauf que plus le film avance, plus on réalise que Kong, bah en fait, il fait juste sa vie, quoi. Il protège son territoire, il défend Anne, il survit dans son environnement. En fait, le seul moment où Kong devient vraiment destructeur, c'est quand les humains l'arrachent à son monde. Une fois à New York, il devient une catastrophe ambulante, parce qu'on l'a littéralement transformé en prisonnier dépressif de 15 mètres de haut. Enfin, ça dépend des scènes. Et le film inverse complètement les rôles. Kong finit surtout par être un animal totalement perdu dans un monde mécanique et technologique qui n'est pas le sien. Le monstre devient tragique. Et c'est probablement pour ça que le film fonctionne encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fonctionnait hier, parce que je me dis que Kong, il devait vachement parler aux chômeureuses qui n'avaient littéralement plus de boulot ni de maison à cause de spéculations bancaires abstraites. Donc non. Kong, ce n'est pas seulement un très très grand singe qui fait des trucs. Il parle de quelque chose de très humain. Notre fascination pour ce qu'on ne comprend pas et notre putain d'incapacité absolue à le laisser tranquille 5 minutes. On admire ce qu'on appelle sauvage, puis on le met en cage. On s'émerveille devant le vivant, puis on le transforme en spectacle. Et le film nous le dit littéralement. Et si vraiment, c'était New York avec ses billets d'entrée. Parce que là, King Kong, il est tout peinard sur son île, il demande rien à personne. Et les humains débarquent avec l'énergie d'un producteur de ciné des années 30 bourré de cocaïne, d'enthousiasme. Et ça part en cacahuète. Ce rapport qu'on a aux animaux ressemble souvent à une guerre, mais une guerre bizarre. Une guerre où une seule espèce écrit les règles, les lois, les documentaires, les publicités pour Chicken Nuggets et les chroniques bancales. On adore dire la nature est violente, alors qu'on a littéralement inventé les abattoirs industriels, les zoos modernes et les vidéos YouTube intitulées « Ce chimpanzé est une machine de guerre sans pitié » ou « Un crocodile se bat contre un requin ». 3 points d'exclamation. Et King Kong montre un truc quand même assez triste. Dès qu'un animal devient assez grand pour ne plus être ignoré, on le transforme immédiatement en spectacle ou en menace, jamais en voisin. Alors que Kong, au fond, il fait ce que font la plupart des autres espèces dans le film et ailleurs. Il essaye de survivre à l'être humain, ce qui, statistiquement, a peu de chances de se terminer en happy end.
C'était « Chercher et détruire », une chanson de Iggy Pop et les Stooges qui est, dont le titre provient en fait d'une stratégie utilisée pendant la guerre du Vietnam. Sympa. Et la légende raconte que c'est pendant des promenades dans les rues de Londres avec son blouson en peau de léopard que Iggy Pop aurait trouvé l'idée de cette chanson où il se décrit comme une panthère des rues au cœur rempli de napalm, le fils prodigue de la bombe atomique.
Sympa. Et le morceau figure dans la BO de La Vie aquatique de Wes Anderson, sorti en 2005, un film dans lequel Bill Murray part à la recherche d'un requin léopard. De nouveau un biopic imaginaire, mais de Jean-Jacques Cousteau. Big up aux auditeuristes des générations X et Y qui s'en souviennent.
Alors, on vient de parler de King Kong, qui n'est finalement que un des premiers films d'une longue lignée où les humains se battent contre des animaux sauvages plus dangereux les uns que les autres. Un sempiternel combat où l'armada technologique ne parvient pas toujours à soumettre les forces de la nature. Si bien que les rôles ont parfois tendance à s'inverser et le chasseur devient le chassé. On va tout de suite écouter quelques extraits à ce propos.
C'est quoi ça encore ?
Une peau d'anaconda.
Ça peut être aussi long que ça, un serpent ?
Cette mue a 3 ou 4 ans. Depuis, il a sûrement beaucoup grandi. C'est une bestiole dans ce genre-là qui vient de croquer notre cher capitaine.
Quoi ?
C'est un requin. Il fait dans les 20-25 mètres de long.
C'est un mégalodon.
C'est impossible.
Oli, préparez vos fusils, il y a un ours brun dans le coin.
Imaginez un animal aussi grand capturé et ramené vivant.
Il y a un énorme serpent dans l'avion, Jack!
Les anacondas sont de parfaites machines à tuer. Ils détectent la chaleur. Ils frappent, s'enroulent autour de vous. Et ils vous serrent plus fort que l'amour de votre vie. Vous avez l'occasion unique d'entendre vos os se briser un par un, juste avant que la puissance incroyable de l'étreinte fasse exploser vos artères.
Je te jeterai au crocodile.
Les plus dangereux de tous.
On vient de se faire descendre par un macaque de la taille d'un immeuble!
Tu as vu dans quel état tu es ?
Non, c'est rien, juste une petite attaque de piranha.
Facochère. Il éventre avec ses défenses. Il vous crève les yeux.
C'est une espèce en voie de disparition, pourquoi vouloir la tuer ?
That's an endangered species at most. What would be the scientific purpose of killing it ?
Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas moi, le monstre.
Alors, on demande à voir le facochère qui arrive à crever des yeux avec ses défenses. Mais voilà. Et on va tenter maintenant de remonter aux origines mythiques de cette guerre déclarée par les humains aux autres espèces en convoquant un épisode de la mythologie grecque. C'est notre côté un peu snob, vous nous pardonnerez. Avec l'histoire de Prométhée et Épiméthée. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Prométhée. C'est un titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux humains. Mais on connaît moins son frère Épiméthée, qui est en quelque sorte son opposé, l'autre face de la même pièce, puisque Prométhée, ça signifie celui qui pense avant, qui anticipe, et puis Épiméthée, c'est celui qui pense après coup, qui agit sans réfléchir. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Épiméthée, il a été chargé de distribuer les capacités aux animaux. Et au début, il fait plutôt bien son job, il répartit bien les compétences, il donne aux uns la force, mais sans la vitesse, aux autres seulement la vitesse, il donne à certains des griffes acérées pour attaquer, à d'autres des carapaces pour se défendre. Il y en a qui peuvent se camoufler, il y en a qui sont minuscules, d'autres énormes. Il y en a qui peuvent voler, il y en a qui peuvent nager. Et puis, ils cherchent comme ça une répartition un peu équilibrée pour rendre impossible l'extinction de chacune des formes d'êtres vivants. Et, c'est là toute l'ironie de l'histoire, seulement à la fin de la distribution, Épiméthée se rend compte qu'il a oublié l'espèce humaine. Et les humains se retrouvent tout nus, sans griffes, sans crocs, sans fourrure, sans ailes, sans camouflage, sans coquilles, sans sabots, sans venin, presque sans poils, donc sans rien. Et ça, c'est une histoire qui nous est racontée par le philosophe du vivant Emanuele Coccia, qui en parle dans son livre « Philosophie de la maison ». Et il propose cette interprétation qu'il a tirée lui-même de Platon. Je vous lis un extrait. Pour toutes les espèces, l'identité est définie par la possession d'une faculté. L'humanité, au contraire, est sans propriété et dépourvue de dons. C'est de ce ressentiment que naît la guerre. Et alors, pour tenter de remédier à cette injustice, Prométhée vole la technique aux dieux pour l'offrir à l'espèce humaine, pour compenser quelque part. Mais le problème, c'est qu'avec cette technique, justement, les humains ils vont pas seulement compenser ce déficit biologique, mais ils vont rapidement dominer toutes les autres espèces et instaurer comme ça un rapport hiérarchique. Et c'est comme ça que se creuse le fossé entre l'animal, qui est lui plutôt adapté à son environnement, et l'humain, qui a besoin d'outils, de langage, de tout un tas de trucs pour construire son rapport au monde. Et Coccia note que la technique n'est que la tentative de sortir du jeu pervers des espèces. Les horloges, les ordinateurs, les voitures, les armoires et les maisons sont des stratagèmes que nous avons adoptés pour pouvoir faire semblant d'être sains. Des animaux quelconques, possesseurs comme tous les autres, du don leur permettant de survivre. La technique, cependant, n'a pas suffi à défendre les hommes de la férocité des animaux. Il a été nécessaire d'acquérir des savoirs permettant de vivre ensemble, la politique, pour pouvoir se défendre, et ce n'est qu'alors qu'a commencé la guerre contre les autres vivants, parce que l'art de la guerre fait partie de l'art politique. Donc une humanité fondée sur la distinction avec les autres espèces vivantes, à qui elle déclare la guerre d'indépendance, pour mieux masquer son interdépendance. Voilà matière à réfléchir pendant le prochain morceau de musique, un petit peu de soul pour se donner du baume au cœur après le gros rock qu'on a écouté et la folk du début.
Together, everyone.
Yeah, Claude Michel au micro en compagnie d'Hélène Scott, Hélène Scott sur Radio Rocket, la radio super chouette. Vous écoutez le Blues du Crocodile, épisode 33. On est très content d'être ici au Jardin de la Main pour les 10 ans de Radio Rocket. Fantastique. Merci à tout le monde de nous écouter. J'espère que vous êtes bien installés dans vos chaises de jardin. On a encore quelques petits trucs à faire, notamment un grand jeu concours avec des t-shirts Radio Rocket à gagner. Donc j'espère que vous êtes chauds, c'est le moment participatif de notre émission. Notre cher directeur qui a designé les t-shirts est parti les chercher quelque part dans le stock, ce qui n'empêche pas qu'on va pouvoir tout de suite commencer. Je lance le jingle et puis je vous explique les règles.
Le grand jeu.
Grand jeu concours.
Oui, ah oui, 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 oui.
Place au jeu.
Alors, le concept est assez simple. C'est une sorte de blind test. On va écouter un extrait et vous allez devoir deviner de quel film c'est tiré. Donc, tendez bien vos oreilles comme un renard à l'affût dans les fourrés. Il y a des t-shirts à gagner. Est-ce que tout le monde est prêt? Je pense pas qu'il y aura besoin de lever la main. C'est celui qui crie le plus fort. Le premier extrait, on ne sait pas s'il est si facile à trouver. On va voir. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques connaisseurs et connaisseuses en matière de cinéma. Attention, c'est parti. Alors, la situation est un peu incongrue puisque c'est Serge qui devait distribuer les t-shirts qui a trouvé en premier la réponse. C'était bien les oiseaux de Hitchcock. Ah, il l'a dit avant, ouais, c'est vrai. Donc, on distribue deux non pas au deuxième, mais au troisième qu'a trouvé apparemment. Bref. Comme quoi, l'extrait était vraiment pas facile. En fait, il y avait quand même un indice, à mon sens, c'était les bruissements d'ailes. On entendait bien le... Mais c'est vrai qu'en regardant le film, en préparant cette émission, on trouvait les sons spécialement intenses. Et il y a des endroits où vraiment, on ne reconnaît plus les oiseaux. Ça devient des sortes de monstres sonores comme ça, et pas seulement visuels. Et puis, on trouvait rigolo de vous faire écouter cet extrait. Peut-être, Hélène, un petit commentaire sur ce film, ou on enchaîne avec le deuxième jeu avant.
Oui, je peux faire tout à fait maintenant, je m'attendais pas.
Non, en fait, allez,
comme tu veux.
Bon, allez, deuxième extrait, cette fois ça devrait être plus facile. Serge se met la main devant la bouche, tout va bien, c'est parti.
Qui a dit les dents de la mer?
Vous avez assez vite reconnu le thème musical des Dents de la Mer. bien joué. Les Dents de la Mer, cette fameuse musique dédicace à notre ami Jacques de La Chaux-de-Fonds qui connaît une bonne blague par rapport à ça, mais je ne vais pas la raconter sur les ondes. Peut-être après, autour du bar.
Mais bravo.
Alors ouais, les Dents de la Mer, après il y a beaucoup de gens qui avaient peur de se baigner même dans le lac de Neuchâtel. Est-ce que en regardant les oiseaux, il y a des gens après qui avaient peur des moineaux, des corbeaux et des pigeons dans la rue? C'est une question qu'on peut se poser, Hélène.
Oui.
En tout cas, on trouvait marrant comme transition parce que c'est un peu cette guerre contre les animaux qui tourne vraiment à l'absurde parce que en fait, si même les corbeaux deviennent dangereux, enfin les corbeaux, ça va, mais il y a d'autres oiseaux encore plus petits dans le film. Qu'on voit finalement tous les jours. Et c'est un film assez étrange parce que les oiseaux attaquent, mais on comprend jamais vraiment pourquoi. C'est peut-être ça, en fait, qui ajoute ce sentiment de malaise dans le film, peut-être.
Mmh. Ouais, on a décidé ensemble que je faisais un mini commentaire sur ce film parce que c'est assez intéressant de le comparer à King Kong. Alors, les oiseaux, je pense que presque tout le monde connaît, mais je dis quand même, c'est Alfred Hitchcock, sorti en 63, c'est 30 ans après King Kong. Je dis quand même vite le pitch au cas où. On suit Melanie Daniel, c'est une jeune femme qui se rend dans la petite ville de Bodega Bay pour retrouver un homme qu'elle a rencontré à San Francisco. Mais sur place, des oiseaux commencent soudainement à attaquer les habitants sans raison apparente. Et plus le film avance, plus les attaques deviennent violentes. Pardon, c'est la bière. Donc, King Kong, les oiseaux, 30 ans, et puis c'est fascinant de comparer ces deux films parce qu'on voit le cinéma changer complètement sa manière de faire peur avec les animaux. Dans King Kong, le danger vient du grand monstre exotique, finalement tragique. Et dans les oiseaux, Hitchcock prend le contre-pied, il fait exactement l'inverse. Plus de gorigées en idylle maudite, juste bah, des oiseaux. Et King Kong est spectaculaire. Dans les oiseaux, il n'y a rien de spectaculaire, il y a même un peu des longueurs, on pourrait presque s'endormir. Il n'y a pas de musique, il y a zéro musique. C'est pour ça que je ne fais pas non plus une grande chronique, parce qu'il n'y a pas d'extrait, ce n'est pas hyper marrant à écouter. Il faut vraiment le ressentir dans la salle. Et plus le film avance, plus Hitchcock il retire au spectatrice, à la spectatrice, tout ce qui rassure normalement dans un film d'horreur. Pourquoi ils attaquent? On ne sait pas. Comment arrêter ça? Aucune idée. Résultat, n'importe quel moineau posé sur une petite barrière, ça devient une menace. King Kong appartient encore au fantasme d'aventure et de domination coloniale du début du XXe. Les oiseaux, il est imprégné des angoisses modernes, l'angoisse de la part invisible de ce qu'on connaît déjà, le chaos qui fait irruption dans le quotidien, la catastrophe absurde qui peut tomber à tout moment et sans raison. Mais les deux films disent finalement la même chose. L'humain croit dominer et maîtriser, jusqu'au moment où en fait il se rend compte que ça marche pas en fait. Pas comme ça en tout cas.
Et en voyant le film, je peux pas m'empêcher après coup d'avoir un peu d'empathie avec ces oiseaux qui sont placés comme ça en une sorte d'envahisseur assaillant.
Paraît-il qu'il y avait un des corbeaux qui était vraiment très très méchant sur le tournage. Alors, en me renseignant un peu. Un seul.
J'avais fait à l'époque une émission sur les oiseaux. Et si vous voulez une anecdote par rapport au corvidé, je ne sais plus si c'était un corbeau ou une corneille, mais c'est des oiseaux qui ont été étudiés notamment sur un campus américain. Et donc un professeur les capturait directement sur le campus. Et puis il faisait des expériences avec, puis au bout d'un moment il les relâchait sur le campus. Et en fait après quand ce monsieur se baladait dans l'université, il se faisait braillé dessus par les corbeaux et qui lançait l'alerte comme quoi ce monsieur qui les avait capturés et qui les avait manipulés était dangereux et puis il se faisait attaquer par les corbeaux. Puis du coup, il trouvait ça drôle et alors il a fait plein d'expériences où il se déguisait en quelqu'un d'autre, il changeait de démarche et puis les oiseaux arrivaient quand même à le reconnaître. Et puis, pour montrer aussi à quel point c'est fin leur capacité d'analyse. Et plus étonnant encore, en fait, il semblerait qu'après les nouvelles générations d'oiseaux se passaient le mot et puis ils savaient qu'il fallait se méfier de ce personnage qui faisait des expériences sur les oiseaux. Quoi. Donc comme quoi il y aurait une forme de culture chez les oiseaux aussi où ils arrivaient à communiquer entre eux. Voilà. Comment enterrer la hache de guerre avec les oiseaux et les autres animaux? On en parle tout de suite après pour conclure cette émission, avec d'abord un petit intermède musical. Traiter les animaux comme des ressources, des nuisibles ou des boss de fin de jeu de plateforme, l'humanité pourrait chercher d'autres relations possibles. Pas forcément la paix, comme dans les films Disney avec des moineaux, des hérissons et des otaries qui chantent, mais au moins la suspension de cette vision de guerre organisée qui conditionne notre regard. Donc on voudrait instaurer une sorte de trêve, trouver d'autres manières de cohabiter. Et on vous a sélectionné quelques extraits de films par rapport à ça.
Ouais. Certains mammifères trouvent que le naturisme, c'est bizarre. Mais je vais vous dire, moi, ce qui est bizarre. Les animaux qui portent des fringues, ça, c'est bizarre.
T'es trop ébouriffé.
On a joué à va chercher.
Avec un bâton?
Avec un bout de tuyau de radiateur en caoutchouc.
Et tu lui as rapporté?
Oui. C'est un bon garçon.
Vous êtes une femme chat. Chaque odeur, chaque image, chaque son. Incroyablement intensifié, indépendance farouche, totale confiance en soi, réflexe non humain.
L'avantage d'être un cochon, c'est qu'on a ni loi ni patrie.
Ah, ça c'est trop, oui. Pareil pour nous, les taupes.
Je ne t'appartiens pas, je me fiche de toi, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'attendrai pas. Je mords.
La rédemption? Mais au bout du compte, ce n'est jamais qu'un rat crevé de plus dans les poubelles d'un restaurant chinois.
Et il se trouve, tu sais quoi?
Que Dieu,
c'est un écureuil. Ouais, un gros bien moins cher.
Where did he come from? Where'd you come from? What are you doing here? Canis lupus. Vulpes, vulpes. I don't think he speaks English or Latin. Pensez-vous que l'hiver sera rude? I'm asking if he thinks we're in for a hard winter.
doesn't seem to know. I have a phobia of wolves. What a beautiful creature. Wish him luck, boys.
Good luck to you.
Good luck, boys.
Good luck out there.
Voilà quelques extraits que les auditeuristes attentives ont reconnus dans la foule. On est très contents que ça vous parle comme ça. Et pour conclure cette émission, on avait envie de dire peut-être que c'est un truc finalement très humain et très saugrenu de se voir un peu comme en dehors de la nature et loin de toutes les autres espèces. C'est que finalement, on pouvait un peu plus se laisser interpénétrer les uns les autres et qu'on se construit en relation avec les autres espèces vivantes. Et pour ça, on voulait invoquer deux autrices qui sont Donna Haraway et Vinciane Després. Et peut-être que Hélène, tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus.
Oui, on vous conseille de... C'est des bouquins, du coup, c'est pas des films. Il faudra faire un petit effort de lecture, une autre temporalité. Donna Haraway, on vous conseille son manifeste des espèces compagnes. Elle explique comment les humains et les animaux se sont littéralement co-fabriqués, en particulier certaines espèces plus que d'autres. Mais le chien, par exemple, n'est pas juste l'ami de l'homme façon calendrier de pompier, disons. Il a changé peut-être notre manière d'habiter, de chasser, de communiquer et même d'aimer. Et inversement, nous avons transformé le chien en une créature capable d'avoir un chihuahua et un husky dans la même espèce, ce qui, génétiquement, ressemble quand même à une bonne blague. Et lorsqu'on voit les personnes qui ont des chiens ramasser leurs crottes en ville, difficile de pas se dire que le chien induit lui aussi des comportements chez l'humain. Vinciane Després, je sais pas comment... J'ai pas bien travaillé. Elle propose dans Habiter en oiseau de se demander non seulement qu'est-ce qu'un animal, ce qui n'est pas forcément très original, mais commencer à se demander plutôt de quoi est-il capable avec nous. Elle montre que les oiseaux, par exemple, ne vivent pas juste dans un territoire, ils fabriquent des mondes, des habitudes, des relations. Bref, ils habitent, en fait, vraiment. Elle refuse l'idée de l'animal machine ou de l'animal pur instinct. Elle pense que les animaux répondent à la manière dont on les regarde. Un scientifique qui traite un rat comme une machine à réflexe n'obtient pas les mêmes comportements qu'une personne qui entre réellement en relation avec lui ou elle, avec ce rat. Donc la fameuse nature animale n'est peut-être pas une vérité fixe. C'est une histoire de relation, d'attention et de cohabitation. Du coup, je me répète vite fait, Donna Haraway, vous pourrez la lire quand même en français, Manifeste des espèces compagnes, Vinciane Després, je ne sais pas prononcer les noms de famille des gens, visiblement, Habiter en oiseau. Lire Haraway ou Després, c'est se dire qu'on vit mélangé aux autres espèces dans des relations faites à la fois d'affection, de dépendance et parfois, oui, de violence. En gros, on n'est pas à côté ou au-dessus des autres espèces, on est plutôt tous coincés ensemble dans le même scénario depuis des milliers d'années. L'humain n'est donc pas un cow-boy solitaire de l'évolution, c'est peut-être simplement un voisin cosmique du loup ou du héron, avec un gros sentiment d'infériorité, de mauvaises compétences en diplomatie et une fâcheuse tendance à vouloir monter des milices de quartier.
Et pour retomber sur nos pattes et proposer une chute à cette émission, quoique moins élégante que celle d'un chat, on pourrait finalement dire que tous les films sont des films d'animaux, d'un genre bien particulier, les humains. Mais à ce moment-là, on serait un peu embêté, car notre émission devrait alors couvrir toute l'histoire du cinéma tout court. Et là, c'était déjà un peu trop vaste. Donc on a fait une petite sélection, on a pioché à droite et à gauche. On a fait d'ailleurs une petite liste. Si Hélène vous a préparé ça, en mode un peu fanzine, pour avoir les références de cette émission. Il y a non seulement la liste de tous les films dont on a parlé, je crois, mais des petits commentaires, des images, pour aller un peu plus loin que juste une émission radio.
Il y a tous les films, des extraits, tous les films d'où les morceaux de musique viennent. En fait, c'est la ref, tout est là-dedans. Donc venez nous voir si vous avez envie de récupérer.
Superbe. Et on voulait encore terminer en musique avec une image en tête, celle de Cléopâtre dans son palais, qui cohabite avec un lion sans crinière. Et les deux chantent joyeusement ensemble en prenant leur bain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et les... il y a une personne, en tout cas dans le public, à qui ça nous rappelle des souvenirs. Et alors, il y a cette voix grave du lion qui s'accorde étonnamment bien avec la voix suraiguë de la reine d'Égypte. On remercie encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée sur votre radio préférée.
Merci, belle soirée auditeurice, dans le jardin, mais aussi sur les ondes. Merci à Serge Bontemps pour son accueil. Belle soirée à tous. Et tout.
Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme quatre et de l'esprit.
Alors ça zéro, hein.
Assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar out of my life and mind. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, seu futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul de ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.